France Culture.
France Culture, l'esprit public. Astrid de Villaine.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Esprit Public. Aujourd'hui, Emmanuel Macron en Inde pour pallier les difficultés de la relation transatlantique et 4 ans de guerre en Ukraine, le risque de l'habitude. Nous serons avec le directeur de l'IFRI Thomas Gomard, la journaliste au Monde Sylvie Kaufmann, le professeur en relations internationales Bertrand Badi et la directrice de la rédaction de la revue Esprit Anne-Lorraine Bujon. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée et mise en onde par Souad Boukorsa.
C'est pourquoi nous, Américains, pouvons sembler un peu directs dans nos conseils. Mais c'est pourquoi le président Trump demande de la réciprocité de nos amis européens. Pourquoi ? Car, mes amis, votre avenir et le nôtre nous importent beaucoup. Vous nous êtes chers et nos désaccords proviennent de nos inquiétudes quant à l'Europe à laquelle nous sommes reliés, pas qu'économiquement, pas que militairement, mais également spirituellement et culturellement. Nous voulons que l'Europe soit forte. Nous pensons que l'Europe doit survivre. Car les deux grandes guerres du siècle dernier nous ont rappelé, historiquement, que nos destinées ont été et seront toujours liées, nos destinées communes, Europe et les États-Unis.
Marco Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis, samedi 14 février, lors de la conférence de Munich, ici traduit par nos confrères de France 24. Un an après le choc lié à l'allocution de J.D. Vance lors de cette même conférence sur la sécurité, les Européens sont-ils mieux préparés à la dégradation de la relation transatlantique? Cette semaine, le président Trump a tenu à Washington la première réunion de son Conseil de la paix, censé s'occuper de la reconstruction et de la stabilisation de la bande de Gaza, mission première de cet organisme payant, entièrement à la main du président américain qui vient concurrencer l'ONU sur son terrain. La Hongrie de Viktor Orban était présente, la Commission européenne en observatrice et la France, comme d'autres, critiquant ses choix. Un ordre dispersé habituel qui pénalise ou pas les Européens, on en parlera. Est-ce pour cette raison que d'aucuns préfèrent se tourner vers le géant indien, aux 6% de croissance et aux plus d'un milliard d'habitants? Le vieux continent a signé avec Narendra Modi un accord de libre-échange historique le 27 janvier après 20 ans de négociations. Et le président Macron revient du sommet sur l'intelligence artificielle, samedi à Delhi, après un passage à Mumbai, dans une visite axée sur les échanges commerciaux. Dans le viseur des Français, un contrat à 33 milliards d'euros pour l'achat de 114 avions de combat Rafale français supplémentaires, toujours en cours de négociation. Dans ce contexte de débouchés et d'alternatives crédibles à la puissance chinoise, les atteintes aux droits humains sont passées sous silence et la bonne relation de Modi avec la Russie laissée de côté. Emmanuel Macron était-il en Inde pour pallier les difficultés de la relation transatlantique? On en parle ce matin avec vous, Thomas Gomard, bonjour.
Bonjour, Astrid de Villaine.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Votre dernier livre, Qui contrôle qui? Les nouveaux rapports de forces mondiaux chez Talendier. Sylvie Kaufmann est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste au Monde, vous êtes l'autrice des Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, chez Folio Gallimard, paru en poche. Et je cite vos cours de géopolitique avec Le Monde, l'Europe à l'heure du divorce transatlantique jusqu'au 8 avril. Anne-Lorraine Bujon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes la directrice de la rédaction de la revue Esprit. Et Bertrand Badi, professeur en relations internationales, merci d'être là.
Bonjour.
Je cite votre dernier livre, Par-delà, la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale, chez Odile Jacob. Alors nous avons deux personnes ici présentes, Sylvie Kaufmann et Thomas Gomard, qui étaient à cette conférence sur la sécurité de Munich. Pouvez-vous nous dire quelle était l'ambiance? Est-ce qu'il y a une nouvelle, comme vous l'avez écrit dans Le Monde à votre retour, Sylvie Kaufmann, une nouvelle étape dans la rupture transatlantique?
Ce qui était intéressant, c'est de la comparer, cette conférence de Munich, à celle de l'année dernière. Celle de l'année dernière, vous vous souvenez certainement, c'était ce discours de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, qui avait vraiment sonné totalement l'Assemblée, enfin, qui est donc composée. Les gens qui sont à Munich sont surtout, c'est un peu l'élite de tout ce qui est défense, diplomatie, avec une forte orientation pro-atlantiste en général. Et donc, ce discours très, très sévère, très agressif, faisant de J.D. Vance, faisant la morale aux Européens sur la manière dont on menait notre démocratie, notre conception de la liberté d'expression qui n'était pas la bonne, etc., avait vraiment provoqué un choc très profond. Donc, cette année, il ne venait pas, c'était déjà un signe, il était remplacé comme orateur américain par Marco Rubio, le secrétaire d'État, donc chef de la diplomatie et aussi conseiller à la sécurité nationale, qui a enveloppé tout ça dans une sorte de discours assez sirupeux sur notre héritage commun, notre héritage commun chrétien, bien entendu, et le fait toute notre histoire du XXe siècle, vous en avez cité une partie, et donc il a dit ce que cette assemblée attendait, qui était que l'alliance Atlantique existait toujours. Et ce qui explique cette standing ovation, cette ovation à la fin qui a étonné beaucoup de monde et qui, j'ai enquêté là-dessus pour voir qui avait lancé justement cette ovation. Et on s'aperçoit, il est établi tout à fait formellement que ce sont les ministres allemands de la Défense et des Affaires étrangères et le ministre-président de Bavière qui était au premier rang et qui se sont levés les premiers et qui ont entraîné une grande partie de la salle derrière eux. Donc ce qui montre le fait que ce soit les Allemands qui entraînent ce mouvement d'enthousiasme ou d'approbation, en tout cas, ça montre bien qu'il y avait une volonté de la part de certains Européens d'être rassurés par les États-Unis. Mais en réalité, au fur et à mesure que tout ça a décanté dans la journée et surtout le lendemain matin, en fait, c'est intéressant de voir le processus de digestion de ce genre de discours. Les gens étaient beaucoup plus critiques et ont compris que sur le fond, rien n'avait changé, qu'il y avait en effet une volonté d'apaiser un petit peu cette relation transatlantique, mais qu'au fond, c'est toujours le même discours, le discours MAGA d'un côté, et puis même sur le doute sur la solidité du soutien américain à la sécurité de l'Europe subsiste, il reste tel quel. Et juste pour terminer, je me référerai à un autre intervenant américain qui a été très présent dans cette conférence, qui est Elbridge Colby. C'est le numéro 2 du Pentagone, dont on appelle aussi le cerveau du Pentagone. Je n'irai pas plus loin sur cette description, mais enfin, qui est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur la stratégie américaine et qui, lui, a tenu un discours parfaitement cynique, parfaitement lucide. Il est beaucoup plus froid sur le fait que nous n'avons pas de valeurs communes. Faisons foin de tout ce discours sur les valeurs communes entre l'Europe et les États-Unis. Ce qui compte, c'est nos intérêts communs. Et quand on l'a interrogé sur la solidité de l'article 5 de la Charte Atlantique, c'est-à-dire de est-ce que l'Amérique, les États-Unis sont prêts à venir défendre un État membre de l'OTAN si jamais il est attaqué par la Russie, il a évité de répondre clairement. Donc pour moi, le doute reste entier.
Thomas Gomard, j'ajoute que le chancelier allemand Friedrich Merz, lui, a quand même déclaré au cours de cette conférence « la culture MAGA n'est pas la nôtre ».
Oui, effectivement. Je partage évidemment la lecture de Sylvie en ajoutant trois points. Le premier, c'est qu'effectivement, Munich, c'est le temple du transatlantisme. Et donc, c'est une sorte de chambre d'écho utilisée tous les ans pour faire passer un message qui est très intéressant, je pense, c'est le moment dans lequel nous sommes, c'est-à-dire de divergence idéologique transatlantique et en même temps de convergence médiatique transatlantique. Et la conférence de Munich participe, à mon sens, à ce mouvement.
Vous pouvez développer ?
Oui, parce que je pense que l'affaire Epstein, par exemple, le montre. Nous sommes de plus en plus dans le même espace médiatique que les États-Unis. Au fond, c'est le même, ce sont les mêmes référentiels, et nous passons notre temps, au fond, à commenter le feuilleton qui nous est imposé de la Maison Blanche. Et comme une boule de neige qui ne cesse de grandir, nous commentons le commentons, et au fond, ça traduit, à mon sens, une emprise cognitive exercée désormais par la Maison Blanche, extrêmement efficace, et qui nous place en situation de commentateur en permanence. Ce qui est d'ailleurs un problème assez fondamental, parce que ça nous détourne de questions comme celle que nous devions discuter, l'Inde par exemple. Voilà, on vient de passer déjà un bon moment sur...
Vous inquiétez pas, on y arrive.
C'est évidemment important, mais je pense que ce paradoxe est à relever. Le deuxième point, c'est Elbridge Colby, effectivement... Sylvie a rappelé son rôle. Il y a eu, avant la conférence de Munich, ce qu'on appelle une ministérielle de l'OTAN, c'est-à-dire une rencontre des ministres de la défense des pays membres de l'OTAN, au cours de laquelle il a, au fond, son discours a été publié, où il dit fondamentalement une chose importante, c'est que le parapluie nucléaire américain reste, je dirais, doit rester la norme, d'une certaine manière, ce qui ouvre un sujet par rapport aux manœuvres de la France actuellement, mais que la dimension conventionnelle de sécurité de l'Europe relève désormais des Européens, et simplement des Européens. Alors avec une gradation dans le discours, mais le message est assez clair. De ce point de vue-là, la formule, c'est qu'on est passé de l'idée de partager le fardeau de la dépense militaire à, en fait, c'est votre fardeau désormais. La menace russe, c'est votre sujet. Hein. À aucun moment, la Russie n'a été mentionnée, ni dans le discours de Rubio, ni dans les interventions de Bridge Colby. Et puis, le troisième point, c'est effectivement la tonalité de Marco Rubio. Emmanuel Beretta, dans Le Point, a une très bonne formule, je trouve. Il dit, en fait, et j'étais pas dans la salle lors du discours de Rubio, mais j'ai regardé après, en fait, c'est plutôt quelqu'un qui est plus mélancolique qu'arrogant. C'est-à-dire que le grand paradoxe de tout cela, c'est que la revue de sécurité nationale proposée par les États-Unis dit aux Européens, il faut que vous retrouviez votre grandeur d'antan, sous-entendu, au fond, que vous soyez des puissances conquérantes comme vous l'avez été, la référence aux cinq siècles de domination de l'Occident. Au moment même, en réalité, où tout le monde sent bien qu'il y a une rétraction, au fond, des États-Unis à l'échelle globale.
Bertrand Badie.
Oui, on aura du mal là à s'opposer, parce que je partage cette vision, c'est-à-dire que il n'y a rien de véritablement changé, mais il y a quelque chose de réinventé. Et c'est peut-être ça qu'il faut regarder en face. Il n'y a rien de changé, parce que faut rappeler quand même ces thèmes qui sont exactement les mêmes. Une diatribe contre l'immigration, une diatribe en faveur des valeurs traditionnelles, un scepticisme à l'égard des grands sujets de bien commun, le changement climatique notamment, toujours cette sympathie affichée à l'égard de l'illibéralisme. Vance l'avait dit de manière très brutale, mais Rubio, qu'a-t-il fait une fois terminé son discours? Il s'est précipité à Budapest, aller saluer beaucoup plus que ça Monsieur Orban. Donc les thématiques restent absolument identiques. Ce qu'il faut, je crois, voir, c'est deux choses. La première, contrairement à ce que d'aucuns auraient pu penser, je ne pense pas que les États-Unis cherchent à casser, à dissoudre, à enterrer l'OTAN. Parce que une OTAN réinventée, une alliance atlantique réinventée, finalement, leur rend un certain nombre de services sur lesquels je vais revenir. En revanche, ce qui est intéressant dans cette réinvention, c'est peut-être trois choses. Un, réaffirmer, ou en tous les cas affirmer différemment, l'ascendant des États-Unis. En gros, vous n'avez rien à dire, c'est nous qui disons la doxa, c'est nous qui disons le dogme. Et ça, c'est quelque chose de très important, me semble-t-il, que les États-Unis se remettent en place pour dire que l'OTAN n'est pas une instance délibérative, c'est une instance hiérarchique. Alors, d'un certain point de vue, techniquement, c'était déjà le cas, ne serait-ce que par l'effort militaire qui était consenti par les États-Unis dans la période de la guerre froide. Mais là, il s'agit clairement aussi d'orientation politique et idéologique. Le deuxième élément qu'on voit se profiler et qui est commun à ce qui s'est passé à Munich et ce qui s'est passé à Washington dans l'Institut Trump sous la présidence Trump du Board of Peace trumpien.
Le Conseil de la Paix.
Le Conseil de la Paix, vous préférez que je le dise en français, mais
non, c'est
en
juste
fait,
pour traduire.
C'est surtout un mot américain, n'est-ce pas? Merci. Et on retrouve un modèle qui est le modèle de la route bicyclette. Vous savez que ça a été ainsi théorisé par la diplomatie américaine, c'est-à-dire on est au centre et puis il y a des rayons qui nous rattachent aux autres et les autres n'existent que par le rapport qu'ils ont à nous-mêmes. Ça, c'est un phénomène que l'on a vu se constituer en Asie orientale il y a déjà plusieurs années, où on a rompu avec les vieux pactes style OTA, ZANZUS, etc., et mis en place des nouveaux accords, par exemple l'accord CHIP en matière de microprocesseurs, c'est-à-dire il y a les États-Unis au centre qui négocient individuellement avec toute une série d'États, sans laisser à ceux-ci la possibilité de se coaliser. En fait, ce qui fait peur aux États-Unis, c'est cette logique de coalition entre partenaires qui risquerait ainsi d'équilibrer leur puissance. Là, c'est très exactement ce modèle tentaculaire, ce modèle route-bicyclette qui s'est mis en place. Et tout ceci, à mon sens, est en train de déboucher sur une tentative d'insérer ce modèle dans une nouvelle conception des relations internationales qui doit tenir compte de cette diplomatie parallèle qu'est la diplomatie de connivence. Autrefois et pendant la guerre froide, la diplomatie américaine était une diplomatie de l'alliance et de l'alliance opposée à un autre système d'alliance. Là, il s'agit de concilier une diplomatie dont on ne sait plus très bien si elle reçoit le mot alliance, mais qui doit coexister avec la diplomatie de connivence, qui est celle notamment qui s'établit entre le Kremlin et la Maison-Blanche, et qui, du coup, relativise le sens même de l'Alliance Atlantique. Alors tout ça, c'est quand même pas rien, c'est une vraie réinvention.
Anne-Lorraine Bujon.
Oui, un petit mot, juste un petit complément par rapport à tout ce qui a été dit. D'abord sur le personnage de Marco Rubio, parce qu'effectivement, décider d'envoyer Marco Rubio plutôt que J.D. Vance, c'est déjà un signal en soi. Mais en fait, Marco Rubio, moi je trouve que c'est très intéressant parce que il y a encore peu de temps, on espérait qu'il était le représentant de la partie raisonnable du parti républicain, qui ne serait pas complètement tombé dans le trumpisme. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il a évolué lentement, mais sûrement, enfin pas si lentement d'ailleurs, et que s'il n'est pas une créature MAGA, il ne doit pas tout à Donald Trump, Marco Rubio, contrairement à J.D. Vance, il est en réalité très très aligné maintenant sur le fond avec cet agenda américain. Et c'est important pour les Européens de le réaliser, parce que ça veut dire que cette rupture transatlantique, elle vient de loin, elle est profonde, et ça n'est pas un mauvais rêve qui risque de se dissiper du jour au lendemain. Cela dit, et par rapport à la conférence de l'année dernière, moi je trouve important de souligner que celle-ci s'est déroulée dans des circonstances un peu différentes, parce qu'il me semble que les Européens ont bougé quand même entre-temps. Et donc, même si on peut regretter que ce réveil soit un peu intermittent et qu'on souhaite se rendormir dès que possible en se disant tout va s'arranger, reste que il y a eu les menaces sur le Groenland, il y a eu la capacité des Européens à se mobiliser pour rester ferme contre cette menace. Et donc, même le fait que le style ait changé, que le ton ait changé, ça dit quelque chose de la manière dont on peut se comporter en tant qu'Européen dans cette relation transatlantique pour ne pas faire que la subir. Et là, je trouve très très juste ce que nous dit Thomas Gomard sur la convergence des agendas médiatiques. Et donc le fait que toutes nos élections maintenant se jouent dans un même espace avec une opposition idéologique qui se ressemble entre des forces de droite radicale, pour dire vite, et les forces qui voudraient sauver les démocraties libérales et l'état de droit, je trouve ça tout à fait passionnant, et il faut aussi garder ça à l'esprit.
So Emmanuel Macron has been to India many times.
Bien, Emmanuel Macron est déjà allé souvent en Inde et il a souvent été voir Modi et il essaie de travailler avec lui, même s'il connaît la vérité sur lui. Il sait que cette personne est pratiquement un criminel.
So I know that Macron knows.
Et donc je sais que Macron le sait.
He's dealing with. But this is international.
Je sais qu'il a, il sait à qui il a affaire, mais la politique internationale, c'est ça. Il n'y a aucune morale qui gouverne la politique internationale, uniquement des petits arrangements.
L'une des voix de la dissidence indienne, l'écrivaine Arundhati Roy, au micro de France Inter le 14 février dernier. Et cette question que je vous pose à tous les quatre, pourquoi se tourne-t-on vers l'Inde? Est-ce en raison du rafraîchissement ou des tensions avec les États-Unis dont on vient de parler? Je cite Emmanuel Macron en marge de ce voyage. La relation franco-indienne est dans une phase d'accélération remarquable, et ce, en réponse à la mutation de l'ordre international. Sylvie Kaufmann.
Oui, alors Anne-Lorraine Bujon disait, par rapport à l'année dernière, les Européens ont bougé, c'est tout à fait vrai, et cette visite, c'est ce qui se passe avec l'Inde, fait partie de ce mouvement des Européens. Alors l'année dernière, c'était Davos, janvier 2025, c'était juste au moment de l'investiture de Trump pour son retour à la Maison-Blanche, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avait dit « Nous avons d'autres options, les Européens ». Et dans la suite de ce discours, elle avait emmené tout le collège des commissaires européens où en Inde. Donc déjà il y a un an, il y avait cette idée de chercher d'autres avenues que l'avenue américaine, si ça tournait, au cas où ça tournerait mal. Et il y a cet accord de libre-échange, cet accord commercial que l'Union européenne essaie de négocier bon an mal an depuis une vingtaine d'années avec l'Inde. Et là, il a connu un coup d'accélérateur, évidemment sous la pression, je pense, de cette évolution américaine, et évidemment l'Inde et l'Europe maintenant se trouvent des affinités géostratégiques évidentes. Ça fait partie d'un peu de cette recomposition qui est en cours dans le chaos mondial. Et déjà, cette année, la France avait invité le ministre des Affaires étrangères indien, Jay Shankar, à la conférence des ambassadeurs au mois de janvier. Et à ce moment-là, moi, je l'avais rencontré pour un entretien pour Le Monde, et il avait expliqué que ça faisait partie pour lui de la contre-stratégie, parce que l'Inde a subi un revers terrible aussi avec les États-Unis. L'Inde était en train de construire une relation avec les États-Unis depuis 20 ans, qui était bâtie sérieusement et laborieusement. Et puis tout d'un coup, tout s'effondre avec Trump qui décide d'infliger 50% de tarifs douaniers, de droits de douane à l'Inde. Et donc, à ce moment-là, l'Inde, elle aussi, a intérêt à se tourner vers l'Europe et à accélérer ses négociations. Finalement, cet accord commercial, il est plus politique que commercial, je dirais. Et on va voir d'autres choses. Ça s'inscrit aussi dans cette logique décrite par le premier ministre canadien Mark Carney à Davos, qui est les puissances moyennes doivent maintenant coopérer entre elles pour se sortir de ce face-à-face transatlantique, ou pour le Canada, ce face-à-face, cette relation très très proche qui est devenue toxique entre le Canada et les États-Unis. Donc je pense que c'est une évolution qu'on va voir s'accentuer.
Thomas Gomard.
Moi, je ne vois pas de tournant, en fait, du tout. Au contraire, je vois la continuation d'une des constantes de la diplomatie française depuis François Mitterrand, en fait. Et c'est sur laquelle tous ses successeurs se sont employés à développer cette relation avec l'Inde, qui est devenue très, très substantielle et qui passe notamment par des ventes d'armes, ce qui fait dire que c'est devenu un partenariat stratégique. Sans voir peut-être que l'Inde a une quarantaine de partenariats stratégiques de son côté. Et ça, c'est peut-être que ça conduit à une réflexion plus large, c'est que la diplomatie française, fondamentalement, a anticipé la multipolarité. Et là, elle l'a accompagnée. C'est-à-dire que pour elle, la multipolarité, c'était une manière de moins d'États-Unis, fondamentalement. Donc l'Inde, la Russie jadis, la Chine, au fond, la diplomatie française a œuvré d'une certaine manière à accélérer l'avènement d'un monde multipolaire qui maintenant est là, qui est un phénomène parfaitement compris. Mais il y a deux choses qui n'étaient pas anticipées et qui rejouent dans l'autre sens. C'est qu'on a la multipolarité sans multilatéralisme, d'une part.
C'est-à-dire
qu'on a en fait un monde effectivement multipolaire avec un retour des logiques de puissance et un retour de l'usage de la force à grande échelle. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Et puis le système onusien a pris l'eau de toutes parts. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui incapable. Alors, il a des zones d'action sur lesquelles il est encore efficace, mais de manière politique, il est aujourd'hui incapable de produire de la sécurité. Bon. Et puis la deuxième chose qui n'était pas du tout prévue, c'est que cette multipolarité, qui était envisagée toujours avec cette idée que c'est toujours facile de critiquer les États-Unis parce qu'à la fin, il y a la cavalerie américaine. Donc ça, ça a changé. Et puis surtout, ce qui a aussi changé, c'est le rapprochement entre la Chine et la Russie. C'est-à-dire le fait qu'il y a désormais des pays qui sont dans une contestation ouverte non seulement de la notion d'Occident, ça c'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est une pression très forte exercée sur les Européens.
Bertrand Badie, peut-être rappeler que New Delhi aussi a évolué hein, dans le monde que vient de nous décrire Thomas Gomard, et on est passé du non-alignement des années Nehru à un multi-alignement aujourd'hui en multipliant les alliances, notamment avec la Russie, et ça va nous intéresser pour la deuxième partie de l'émission sur la guerre en Ukraine.
Oui, moi je serais plus nuancé que Thomas Gomard sur différents points. D'abord, je suis pas sûr qu'il y ait une politique française en direction des pays du Sud global, des émergents et des nouvelles puissances. Si on regarde l'historique des relations avec le Brésil, avec l'Afrique du Sud, avec l'Inde même, ou avec la Chine, il y a des coups avec CUP, bien entendu, mais je ne vois pas de ligne, je ne vois pas de partenariat construit. Vendre des rafales, ce n'est pas un partenariat. Il faut bien comprendre cela. Et il y a une volonté qui s'est ouverte en 64 avec la reconnaissance de la Chine par le général de Gaulle et son fameux voyage en Amérique latine où il avait fait la tournée de 10 États du Sud. Mais je n'ai jamais vu de principe structurant. Hein. D'autre part, le monde multipolaire, moi ça j'y crois pas du tout. Je pense qu'on est dans un monde apolaire, c'est-à-dire on aurait bien du mal dans un cours à dire aux étudiants donner la liste des pôles qui pourraient exister. Ceci étant, moi ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que effectivement, et là je vous rejoins, il y a mille raisons de développer ce type de partenariat ou de, en tous les cas, souhaiter le faire. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que ce sont toutes des raisons fêlées. Ce sont toutes des raisons qui ont leur, je dirais, contrepoint. La première raison, elle est de nature structurelle. C'est-à-dire, effectivement, l'Inde, c'est la cinquième puissance mondiale en termes de PIB. C'est la première en termes démographiques. C'est donc a priori une évidence. Seulement, faut quand même pas oublier qu'en termes de PIB par habitant, l'Inde est 145e. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire 145e. En termes d'IDH, c'est-à-dire d'indice de développement humain, 132e. En termes d'IPE, c'est-à-dire d'environnement et de protection de l'environnement, 180e. C'est-à-dire que c'est un naufragé du système mondial, l'Inde. Et la question est quel type de partenariat on peut construire avec un grand malade, hein, c'est une première question. La deuxième raison qui explique cet engouement tout à fait légitime pour l'Inde, c'est des raisons systémiques qui ont été parfaitement rappelées, c'est-à-dire on est dans un monde ouvert. Alors, je suis là non plus pas tout à fait d'accord avec Thomas Gomard quand il souligne l'importance du rapprochement Chine-Russie. Moi, ce que je voudrais dire, c'est parler d'un autre rapprochement qui me paraît autrement plus surprenant, c'est le rapprochement Inde-Chine, qui s'est fait à l'occasion de la récente conférence de l'OCS, de l'Organisation de la coopération de Shanghai, et ces deux États qui, depuis l'indépendance de l'Inde, pratiquement sont à couteau tiré, ont commencé à développer un partenariat qui est en train de modifier les cartes. La question du jeu fluide, je dirais plus que multipolaire, c'est comment s'insérer dans une fluidité qui, finalement, n'est maîtrisable par personne. N'oubliez pas, par parenthèse, que l'Inde s'est effectivement rapprochée, dit-on, des États-Unis, puis s'est fâchée avec les États-Unis, hein, c'est un peu le tourbillon de la vie, style Jeanne Moreau, et maintenant se rapproche à nouveau des États-Unis en passant un accord en matière d'intelligence artificielle qui est infiniment plus important que n'importe quel autre accord. Hein, et ça, on ne veut pas le voir. C'est-à-dire, cette fluidité, elle réserve des surprises, d'autant qu'elle n'est pas prévisible par définition, puisqu'elle est fluide. Le troisième élément, c'est effectivement des facteurs conjoncturels. Alors, il y a la vente de Rafale. Moi, je suis toujours inquiet de voir qu'une politique étrangère est commandée par la vente de produits. Les choses sont quand même plus complexes quand il s'agit de gérer des relations bilatérales et a fortiori multilatérales. Et puis, il y a aussi ce projet fantasque d'Indo-Pacifique, la France, grande puissance de l'Indo-Pacifique, puisqu'elle le dominerait de Mayotte jusqu'à la Polynésie, et qui est obsédée par l'appui indien, laquelle Inde a en tête des choses bien différentes de ce que nous, nous appelons Indo-Pacifique. Donc tout ça est bancal.
Anne-Lorraine Bujon, êtes-vous frappée par le fait qu'on ne parle plus vraiment des droits humains? Avant, il y avait des voix qui s'élevaient quand on avait des déplacements dans des pays nationalistes ou autoritaires. Et surtout, quel est l'intérêt pour la France de vendre autant de Rafales? On a bien compris les 33 milliards d'euros, mais à une économie qui dépend du Kremlin pour son armée.
Oui, je crois Bertrand Badi a parlé de fluidité, mais on pourrait aussi parler de volatilité. Enfin, tout ça nous parle d'un monde dans lequel il faut bien se dire qu'on peut avoir de grands partenaires commerciaux, par exemple, qui sont aussi des adversaires stratégiques ou des rivaux. Et le cas de l'Inde est vraiment typique. Donc, d'abord, évidemment, il y a l'évolution que vous décrivez après une décennie de Narendra Modi, où c'est devenu complètement abusif de dire que l'Inde est la plus grande démocratie du monde. Voilà, c'est un régime autoritaire où règne une forme de nationalisme religieux. Les juges sont sous la coupe réglée du pouvoir. On persécute des minorités ethniques ou religieuses. Donc, il faut évidemment avoir tout ça à l'esprit. Mais l'Inde a aussi un certain nombre de partenariats ou d'accords très importants avec la Chine et avec la Russie, qui sont par ailleurs nos adversaires, mais ça n'est pas nouveau. C'est-à-dire que l'Inde a toujours été l'exemple même du pays où on a testé tous ces nouveaux mots, donc minilatéralisme, plurialignement, polylatéralisme, ce qui montre bien que c'est le monde des alliances où on peut avoir effectivement ces différents étages, les valeurs, les principes démocratiques, les intérêts commerciaux, les intérêts stratégiques alignés. Ça ne fonctionne pas. Alors ici... est-ce que c'était un tournant? Est-ce que tout ça, que doit tout ça à la détérioration de la relation transatlantique? Il faut peut-être distinguer l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde. Je crois que ça ressemble fort à un redéploiement de nos intérêts commerciaux et à la volonté de faire coopérer deux blocs commerciaux très importants dans le monde actuel. La relation franco-indienne, il me semble qu'elle répond à des objectifs stratégiques différents. Et là encore, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu beaucoup de changements récemment. Et donc, pour la France, nouer des relations plus construites avec l'Inde, mais aussi avec le Brésil, l'Afrique du Sud, évidemment, ça a tout son sens dans le monde dans lequel on est. Mais sans s'illusionner, on aura peut-être des connivences, des partenariats, des coopérations... On ne va pas réinventer le multilatéralisme comme ça. L'idée, c'est d'aller chercher des alliances avec des accords, avec des pays qui nous ressemblent, en partie seulement. Et parce que nous avons, comme eux, intérêt à fonctionner dans un monde où il y a des règles, mais il faut bien se rendre compte que ces règles, ce ne seront pas forcément les nôtres.
Est-ce qu'on peut attendre ce que vous venez de décrire, Anne-Lorraine Bujon, du sommet des convergences qui va se tenir en amont du G7 à Évian, préparé par la France? Une volonté de mélanger les BRICS et certains pays du G20 de la part d'Emmanuel Macron, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud dont vous parliez. Est-ce que c'est une forme de réinvention de ce multilatéralisme à vos yeux, Thomas Gomard?
Je ne sais pas si c'est une réinvention, mais c'est là aussi, je vois beaucoup de continuation et de cohérence dans la diplomatie française qui s'est toujours intéressée à ce sujet. Peut-être deux points complémentaires. Le premier, c'est que la dépendance de l'Inde vis-à-vis de la Russie en matière militaire, il faut la nuancer parce que précisément l'objectif de l'Inde, c'est d'en sortir et notamment en créant des relations stratégiques sur le plan militaire avec les États-Unis, avec la France et avec Israël. Il y a une relation extrêmement étroite entre l'Inde de Narendra Modi et Israël de Benjamin Netanyahou. Ensuite, le deuxième point, c'est que, si on se souvient bien, l'Inde et la Chine sont à l'origine de la conférence de Bandung et de ce qu'on appelait alors le tiers-mondisme.
La Chine, elle a enfoncé la porte, mais elle n'est pas l'origine.
Non-alignement.
Oui, du non-alignement. Enfin bon, Et à l'époque, ce qui est intéressant, c'est que je pense que ce chiffre est très significatif, c'est que ce qui va devenir l'embryon des BRICS, c'est Evgeny Primakov, premier ministre de Boris Yeltsin, à la fin des années 90, au moment de déclassement de la Russie. C'est-à-dire ce qui s'est passé d'une certaine manière, c'est que la Russie les a rejoints aussi pour des raisons économiques. Et juste un chiffre qui est quand même très, très éloquent sur ce qui est en sur ce qui s'est passé en 40 ans, le rapport l'État le rappelle. En 1985, lorsque le marché commun est lancé par les Européens, la Chine et l'Inde, c'est 5% du PIB mondial, c'est aujourd'hui 21%. Voilà. Donc il y a des éléments structurels qui s'expliquent principalement par la dimension démographique et aussi par la fulgurance de l'émergence chinoise, dans laquelle, je dirais, l'Inde essaie de se positionner. Mais un dernier point, je ne pense pas du tout qu'on soit dans un rapprochement entre la Chine et l'Inde. Pas du tout. Je pense qu'on est. Il faut rappeler que les deux pays s'accrochent militairement en 2020 et que par ailleurs la Chine soutient le Pakistan. L'Inde et le Pakistan se sont heurtés militairement au mois d'avril.
D'un mot, Sylvie Goffman.
Oui, juste un mot sur l'Inde. L'Inde grand malade. Il se trouve qu'il n'y a pas seulement Emmanuel Macron qui va en Inde, ni seulement Ursula von der Leyen. Le chancelier Merz est allé en Inde avant d'aller en Chine. Donc il y a quand même des choses qui l'intéressent, là, je pense.
Très court, Bertrand Badie. Puis on va aller sur la guerre en Ukraine.
Pas l'autre. Qu'il y ait effectivement des raisons de courtiser l'Inde, c'est évident, mais il faut savoir la fragilité de la puissance indienne. Maintenant, je voudrais, pour répondre à votre question, dire que cette obsession minilatéraliste ne mène pas à grand-chose. Pourquoi ?
Sur le sommet des convergences à Évian.
Oui, voilà. Pour une raison très simple, c'est que si vous regardez la carte des conflits, les conflits germent là où il y a au contraire faiblesse, où ce sont des États qui ne sont pas du tout impliqués dans la chaîne minilatérale. C'est aussi la faillite de la puissance, ce genre de...
Eh bien justement, on va parler d'un conflit qui entre dans son quatrième hiver.
France Culture, l'esprit public, Astrid de Villene.
I think that they never had another goals.
Je pense que leur seul objectif a toujours été l'occupation de l'Ukraine et qu'ils veulent au minimum le Donbass, la région de Donetsk dans son intégralité. Mais leur but est clairement de présenter cela comme une victoire pour leur société. Peut-être même pas pour la société, mais pour Poutine lui-même. C'est une victoire pour lui-même, vous savez. Nous ne pouvons pas simplement nous retirer de notre territoire ou échanger une partie de notre territoire contre une autre. C'est un peu fou, je suis désolé. Il ne s'agit pas seulement de terre. 200 000 personnes y vivent, des centaines, non, des milliers y ont perdu la vie.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, samedi 14 février à la conférence de Munich, le Donbass, région extrême orientale de l'Ukraine, à la frontière russe, est toujours au cœur des négociations et de la guerre qui s'enfonce dans son cinquième hiver. Mardi 24 février, elle entrera dans sa cinquième année et les durées des guerres mondiales du XXe siècle s'invitent dans les esprits. 325 000 morts côté russe, 140 000 côté ukrainien et si l'on ajoute les blessés, disparus ou réfugiés, le chiffre atteint des millions, soit la crise migratoire la plus importante depuis la Syrie et un nombre de pertes humaines liées à la guerre jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette année, après le retrait américain, l'aide européenne atteint des sommets et dépasse de loin celle des États-Unis. Les sanctions ont été adoptées dès 2022 et si l'Ukraine résiste, les frappes russes sont encore plus importantes qu'au début du conflit et l'hiver ne joue pas en la faveur des Ukrainiens dont les structures de chauffage sont particulièrement ciblées. Cette semaine à Genève, les États-Unis ont mené des pourparlers entre les deux parties, mais les intérêts et lignes rouges sont toujours bloqués aux mêmes endroits. Le Donbass est toujours au centre des discussions. La région qui comprend Louhansk et Donetsk est déjà convoitée par les Russes en 2014, n'est pas prête d'être cédée, selon Zelensky, pour qui, au-delà des territoires, il s'agit de personnes y vivant et de toutes celles qui y ont déjà laissé la vie. Quel avenir pour l'Ukraine, 5 ans après l'invasion russe? C'est la question que nous posons ce matin à nos 4 invités. Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, votre dernier livre, Qui contrôle qui? Les nouveaux rapports de forces mondiaux chez Talendier. Sylvie Kaufmann, journaliste au Monde. Vous êtes l'autrice des Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, paru en poche chez Gallimard. Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la rédaction de la revue Esprit, et Bertrand Badie, professeur en relations internationales. Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale, c'est votre dernier livre chez Odile Jacob. Que vous inspire ce cinquième hiver que Russes et Ukrainiens vont traverser dans la guerre, Bertrand Badie?
Écoutez, d'abord un certain nombre de constats que l'on a du mal à faire, mais qui se confirment, à savoir que Poutine a perdu cette guerre. Il a perdu. C'est-à-dire que la troisième armée du monde, deuxième de bien des points de vue aussi, au bout de 4 ans de guerre, n'a pu mordre que sur 12%, hein, je mets la Crimée de côté, 12% du territoire ukrainien. Ce qui est une défaite militaire que nul n'envisageait il y a 4 ans, le 24 février 2022. Vladimir Poutine est confronté, même s'il fait tout ce qu'il peut pour le cacher, à des difficultés économiques liées effectivement à un effort de guerre extrêmement important. Et que, sur le plan humain, vous le rappeliez, donc je ne reviens pas dessus, le bilan est absolument catastrophique. Et on a noté que pour l'année 2025, le solde entre les hommes recrutés et les hommes tués ou blessés au front était un solde négatif, ce qui, effectivement, révèle bien des choses. Mais d'un autre côté, il y a un autre perdant dans cette affaire, c'est Trump. Trump, non pas sur le plan militaire, mais sur le plan diplomatique. L'homme qui annonçait 24 heures pour faire la paix dans le conflit russo-ukrainien et qui, au bout de 1 an et 1 mois et 2 mois, n'est arrivé pratiquement à aucun résultat substantiel. Alors, ça, c'est, je crois, d'autant plus important parce que ça peut guider, non pas les prévisions, je me garderai bien de faire de la prospective, mais les perspectives qui s'ouvrent, c'est-à-dire le besoin absolu de Poutine de se désengager d'un conflit, mais surtout pas à n'importe quel prix, et le désir absolu et total de Trump d'obtenir n'importe quel cessez-le-feu, même s'il est d'une qualité aussi mauvaise que celui qu'il a obtenu à Gaza. Et puis, il y a un troisième acteur, alors je sais qu'on n'aime pas qu'on en parle, mais j'en parlerai, qui est la société ukrainienne. Et cette société ukrainienne, moi j'ai lu un récent sondage de l'Institut international de sociologie de Kiev, qui nous dit que 65% des Ukrainiens sont prêts à supporter un conflit aussi longtemps que nécessaire. 52% d'entre eux sont prêts à descendre dans la rue s'il y avait des cessions territoriales pour le Donbass. 90% sont prêts à frapper la Russie sur son territoire. Et j'ajoute, mais là je ne suis pas spécialiste de stratégie et d'art militaire, qu'on nous explique que les fausses victoires de la Russie, qui grignotent du terrain, je pense notamment à Pokrovsk, on s'aperçoit que finalement, ces grignotages sont mis en échec, comme ils l'ont été récemment, une reculade de l'armée russe, du fait d'une résistance du soldat d'infanterie ukrainien absolument saisissant et absolument remarquable. Alors, je pense que tout ça relativise bien des choses sur la fameuse géopolitique, là-bas, et montre que on est en train d'entrer peut-être dans un autre monde.
C'est très bien fait sur votre site internet Le Monde, Sylvie Kaufmann. On voit que la Russie a progressé, puis perdu du territoire. C'est vrai, quand on regarde les cartes, c'est pas énorme leur progression et ils ont plus de pertes humaines. Pourquoi l'Ukraine n'arrive pas à l'emporter ?
Parce que, comme vous l'avez dit dans votre introduction, la Russie était la première armée d'Europe, la plus forte, et donc il y a une supériorité numérique qui était évidente au début. Mais malgré ça, moi je suis d'accord là-dessus avec Bertrand Badie, malgré ça, le fait que l'Ukraine tienne tête, résiste et impose ce petit grignotage, et même un recul dans certains endroits ces dernières semaines à la Russie, est extraordinaire en soi. Il y a une phrase de Zelensky à Munich qui m'a beaucoup frappée, que je trouve très révélatrice. Il dit « Vladimir Poutine se voit en tsar, mais en fait, il est esclave de la guerre. » Et on voit maintenant que finalement, Poutine n'a pas d'autre issue Et on voit ça dans les négociations qui piétinent depuis des mois. Vladimir Poutine n'a pas d'autre issue que de continuer la guerre parce qu'il a bâti toute son économie là-dessus maintenant et même son pouvoir. Et donc, voilà, on est bloqué. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même plusieurs. Si on fait le bilan de ces 4 ans terribles, à part le bilan humain absolument monstrueux, on a une société, je suis tout à fait d'accord avec vous Bertrand Badi, la société ukrainienne qui fait preuve d'une résilience et d'un... Alors il y a beaucoup de monde qui est parti, il y a 6 millions au moins d'Ukrainiens qui sont partis, mais ceux qui restent là, et on le voit cet hiver, et cet hiver qui est un des hivers les plus froids que l'Ukraine ait connu, où le chauffage s'est arrêté, toutes les sources, les centrales d'électricité sont toutes au point mort, ou presque, enfin c'est...
Elles ont toutes été touchées en tout cas.
Voilà. On a une situation qui est quand même sur le plan humain, matériel, très très compliquée. Et l'Ukraine tient, et la société tient. Et l'autre chose que je vois émerger aussi de ces 4 ans de guerre, à part sur le plan militaire, l'Ukraine a fait apparaître un nouveau type de guerre. On a inventé dans cette guerre la guerre postmoderne, avec toute cette question des drones qui a transformé, si je puis dire, l'art de la guerre. Mais on y reviendra peut-être. Mais ce que la société ukrainienne a imposé aussi, c'est l'identité démocratique de l'Ukraine. Et là, je dois dire, je trouve ça assez spectaculaire et frappant et remarquable. C'est que vous avez, contrairement à ce que dit Poutine, qui dit que c'est un seul peuple, la Russie et l'Ukraine, vous avez la Russie qui est restée dans une tradition, une identité tsariste, impériale, alors qu'ils ont passé 70 ans dans le même chaudron soviétique, les Ukrainiens et les Russes. Et on voit l'Ukraine qui a émergé vraiment, pas seulement depuis l'invasion à grande échelle. Déjà, on l'a vu avec la Révolution Orange, ça a commencé en 2004, et puis surtout... la révolution de Maïdan en 2014, qui était aussi pendant un hiver très très rude, et les gens sont restés dans le froid toutes les nuits sur la place Maïdan pour tenir tête et imposer ce changement de régime. Mais donc on a une société qui, malgré la guerre, reste profondément démocratique et je dirais profondément européenne. Et même, il y a toujours cette subsistance, cette permanence du problème de la corruption qui est réel. Mais là aussi, on voit la société ukrainienne, la société civile, résister, imposer au pouvoir ukrainien des réformes de lutte contre la corruption. Et je trouve ça, c'est une leçon absolument magistrale.
Thomas Gomard.
Bon, moi, j'ai l'habitude de rappeler que les choses ont commencé en réalité en février 2014. Donc, on est en fait à 12 ans de guerre d'un point de vue ukrainien. 4 ans, effectivement, après l'offensive à grande échelle de février 2022. Et si on se demande qui a gagné, qui a perdu, je pense que la réponse est assez simple. C'est l'Europe, Russie incluse, qui a perdu. C'est-à-dire que l'Europe, à l'échelle mondiale, a perdu son principal avantage comparatif, qui était sa stabilité stratégique. Et ça, je pense que nous n'avons pas fini d'en mesurer les conséquences. Le deuxième point, c'est la situation effectivement à la fois admirable de résistance, d'héroïsme de la part de l'Ukraine et assez désespérée en réalité. C'est-à-dire que c'est le pays au monde aujourd'hui qui a le taux de mortalité le plus élevé et le taux de natalité le plus faible. Vous avez 3 décès pour une naissance aujourd'hui en Ukraine, avec, Sylvie Kaufmann l'a rappelé, 6 millions d'Ukrainiens réfugiés. Et d'une certaine manière, la résistance ukrainienne est la surprise stratégique, parce que, vous savez, pour la Première Guerre mondiale, il y a eu toute cette théorie de l'Allemagne sur la théorie du coup de poignard dans le dos. Les Ukrainiens ont subi un coup de poignard dans le dos, avec le changement de pied de l'administration américaine à leur égard et le fait que l'administration Trump reprend en très grande partie l'argumentaire du Kremlin. Le troisième point, c'est la situation de la Russie. Là aussi, pour des choses, je pense, maintenant assez clairement analysées, c'est que Vladimir Poutine propose au peuple russe la continuation de la Grande Guerre patriotique. Il est, lui, dans ce mouvement historique-là, on en pense qu'on en veut, mais il ne voit pas les choses ni depuis 2014, ni depuis 2022, il voit les choses depuis, au fond, 1941. C'est sa lecture du conflit, et je rappelle qu'il veut hein, toujours dénazifier l'Ukraine. Avec, et c'est ça qui est le plus dur à comprendre pour nous, Européens, parce que nous sommes sortis de cet horizon, et il faut s'en féliciter, c'est la force du projet européen d'avoir réussi à produire de la sécurité et de la paix entre ses membres, mais nous sommes quasiment incapables de nous représenter aujourd'hui ce que veut dire 1000 morts par jour. C'est-à-dire que c'était des taux de perte de la Première Guerre mondiale, et c'est ce que subit aujourd'hui l'armée russe en Ukraine, sans parler évidemment des pertes ukrainiennes et civiles. Alors sur la situation militaire, effectivement, dans le monde d'hier, le général Sirski, chef d'état-major ukrainien, a eu cette formule, pour paraphraser Bertrand Badie, hein, le fantassin vaut littéralement de l'or. C'est-à-dire que c'est une manière de faire la guerre par les drones, c'est une guerre à la fois très archaïque, par son taux de perte, par les tranchées, etc., et également une guerre de drones, c'est-à-dire que les Ukrainiens revendiquent, par exemple, 820 000 frappes de drones en 2025 et 240 000 directement contre des soldats. Il faut essayer de se représenter, en fait, ce que cela veut dire, et pour bien prendre conscience de la boucherie qui est à l'œuvre au cœur de l'Europe. Et dernier point, moi je pense que, à la différence, c'est aussi pour prolonger un vieux débat avec Bertrand Badie, je pense que la guerre d'Ukraine, si on définit la géopolitique comme l'idéologie relative au territoire, c'est l'exemple que vous avez des décisions prises par un petit nombre, ou pour quelques arpents, quelques hectares, on est prêt à sacrifier des millions d'hommes.
Mais ça marche pas.
Et c'est pas que ça marche pas, c'est que c'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est que c'est ce qu'on observe malheureusement.
Anne-Lorraine Bujon, que penser des pourparlers cette semaine à Genève sous l'égide des États-Unis, et puis j'allais dire de tous les autres pourparlers qui existent depuis février 2020, depuis le début de la guerre. Est-ce que ça avance? Est-ce que ça sert à quelque chose?
Non, ça n'avance pas, et non, ça ne sert pas à grand-chose, puisque en fait, ces négociations, ce sont des simulacres de négociations, puisque le principal intéressé, Vladimir Poutine, en fait, ne souhaite pas négocier. Et pour repartir de ce qui a été dit précédemment par Thomas Gomard, enfin, et par tous, en réalité, dans ces négociations, en réalité, Vladimir Zelensky, c'est avec l'Europe et c'est avec l'Europe et c'est avec les États-Unis qu'il négocie, parce que vous parliez en introduction de risque d'habituation à cette guerre. Alors, je pense que en Russie, on ne peut pas s'y habituer pour toutes les raisons qui ont été indiquées. On ne peut pas s'habituer à perdre 35 000 personnes par mois, à ne pas avancer à ce point, à la situation de défaite stratégique. Donc Vladimir Poutine ne peut pas se satisfaire de la situation telle qu'elle est. Les Ukrainiens non plus, évidemment. Et il y a eu une série de reportages vraiment assez remarquables sur France Culture cette semaine. Donc je vous fais une petite page de pub. Mais les reportages, quand on interroge les Ukrainiens, c'est très frappant. Leur courage, leur détermination, mais leur lucidité aussi. Et sur les négociations, ils disent mais en fait, nous n'avons pas le choix. Nous sommes agressés. Tant que l'agression ne s'arrête pas, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à nous battre. Donc, Volodymyr Zelensky, il a besoin du soutien des États-Unis. Les États-Unis exigent des négociations. Donc, il faut négocier. C'est évident. Mais la question du Donbass, le céder, ne pas le céder, là, je crois qu'il y a un petit effet d'illusion d'optique. Je ne pense pas qu'on ait affaire à une guerre territoriale. Enfin, il faut se souvenir à quel type de guerre on a affaire. Et ici, je renvoie vers un article que j'ai trouvé vraiment excellent sur le site de Desk Russie. C'est un article par l'historien Pierre Raymond. Il rappelle que cette guerre, c'est une guerre d'anéantissement du peuple ukrainien. Le Kremlin ne veut pas de peuple ukrainien, il ne veut pas de pays ukrainien, il ne veut pas de nation ukrainienne, il ne veut pas de culture ukrainienne, il ne veut pas de langue ukrainienne. Donc quand quelqu'un vous fait la guerre pour vous anéantir, vous n'avez d'autre choix que de résister. Et donc les discussions territoriales, oui, si ça permet de monnayer un soutien qui se poursuit de la part des États-Unis et de la part des alliés européens. Et il faut faire attention ici, parce que le soutien des États-Unis se poursuit. Il se poursuit parce que les Européens payent. Mais on voit bien que le renseignement, les satellites, Starlink, qui s'est interrompu, infligeant des revers du coup à l'armée russe, en tout cas, ce qu'il reste du soutien américain, il faut absolument qu'il se prolonge. Donc il faut négocier.
Et le soutien américain, Bertrand Badi, on le voit tout de même, par exemple, dans la volonté américaine de intercepter ce qu'on appelle la flotte fantôme russe. C'est presque paradoxal. Ce sont ces navires qui transportent du pétrole en dépit des sanctions.
Non, c'est pas du tout paradoxal, parce que je crois qu'il faut creuser cette notion de diplomatie de connivence. Les rapports entre Washington et Moscou ne sont pas évidemment des rapports d'alliance, c'est la raison pour laquelle il y a des contentieux et des situations de confrontation. Simplement, il s'agit de gérer la confrontation pour qu'elle n'aille pas au-delà d'une certaine limite et qu'elle puisse permettre des échanges et des transactions qui soient favorables aux deux. Après tout, Poutine a échangé le Venezuela contre l'Ukraine. Hein. On pourrait dire de manière très très résumée, c'est-à-dire je vous laisse faire au Venezuela, vous me laissez faire en Ukraine. Et donc, il faut s'habituer, au lieu de rester rivé à la notion d'alliance qui n'est qu'une face des rapports entre États, de comprendre qu'il peut y avoir ces formes hybrides que j'appelle connivence, qui tantôt conduisent à la confrontation, tantôt à l'accommodement. Je voudrais juste ajouter deux choses très brièvement. Je suis tout à fait d'accord avec Thomas Gomard. Cette guerre a le parfum de la guerre d'antan et de la vieille géopolitique. Simplement, autrefois, ces conflits régulaient les rapports internationaux de manière assez fonctionnelle. Pardon, le terme est un peu brutal. Maintenant, aujourd'hui, ça ne passe plus parce que il y a un barrage social qu'il faut prendre en compte. Toute dernière chose que je voudrais dire et dont on ne parle jamais, il y a eu un réflexe solidaire de l'Europe avec l'Ukraine, ou du moins d'une grande partie de l'Europe avec l'Ukraine, très bien, mais pourquoi n'y a-t-il jamais eu même l'ébauche d'un plan de paix européen sur l'Ukraine? Il y a un plan de paix qui vaut pas grand-chose, je vous l'accorde, mais un plan de paix américain. Il y a eu diverses initiatives qui n'allaient jamais très très loin, mais pourquoi l'Europe, la principale intéressée, n'a pas la force de présenter un plan de paix qui pourrait prendre une autre porte que l'impossible transaction territoriale, qui serait celle d'un Helsinki 2, qui serait celle d'une nouvelle conférence sur la sécurité en Europe. Pourquoi il n'y a jamais de proposition en ce sens? Et alors là, je rejoins Thomas, c'est effectivement la preuve d'une incapacité de l'Europe à faire face à cette situation.
D'un mot, Sylvie Kaufmann.
Très bonne question, Bertrand Badi, mais je vous en enverrai une autre. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Et Helsinki, c'était pas l'Europe toute seule. C'est ça aussi. Oui, bien sûr, mais ça prend un peu de temps. Moi, je pense que ces 4 ans montrent aussi que l'Europe, progressivement, s'est impliquée dans ce conflit. Maintenant, l'Europe est dans le camp de la guerre, très clairement, et c'est elle qui apporte toute l'aide, finalement, maintenant, à l'Ukraine.
Et j'ajoute, pour terminer cette émission, que selon un sondage IFOP aujourd'hui dans la Tribune Dimanche, les Français seraient passés sous la barre des 50% pour le soutien financier.
Voilà, il est là le risque de l'habituation. Les seuls qui risquent de s'habituer, ce sont les opinions publiques européennes et il faut lutter contre cela.
Merci à tous les 4. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Thomas Gomard, directeur de l'Institut français des relations internationales, votre dernier ouvrage chez Talendier, Qui contrôle qui, les nouveaux rapports de forces mondiaux, quelle est votre recommandation pour nos auditeurs?
C'est une recommandation qui est en ligne avec notre deuxième sujet, puisque je tiens Vie et destin de Vassili Grossman comme un des plus grands textes du XXe siècle et que j'ai lu récemment, je ne l'avais pas fait avant, Tout passe, qui a été publié chez Kalman Levy en 2023, qui est un texte qui a été publié après la mort de Vassili Grossman. Je rappelle qu'il est né en 1905 à Berdichev en Ukraine et qu'il meurt en 1964, que ses manuscrits avaient été confisqués par le KGB et ont connu une postérité après. Et c'est l'histoire de Ivan Grigorievitch qui revient après 30 ans de captivité au goulag et qui rencontre notamment ceux qui l'ont envoyé au goulag. Et c'est la première fois qu'il y a un parallèle établi aussi directement entre le communisme et le nazisme.
Anne-Lorraine Bujon, directrice de la rédaction de la revue Esprit.
Alors, pour rester en Russie, moi, je voudrais recommander aux auditeurs, s'ils ne l'ont pas déjà vu, le film documentaire Mr. Nobody Against Putin. Donc, vous avez peut-être d'autres invités qui l'ont recommandé.
Je pas encore.
Encore.
Merci
le
beaucoup.
Voir sur Arte. Oui. Et c'est donc un film documentaire qui a été tourné par Pavel Talankin en Russie, dans une petite ville perdue du Donbass et qui, de l'Oural, et qui montre, en fait, comment la propagande du Kremlin avance, la militarisation avancée de cette société et qui montre réellement en fait le culte de la guerre et du sacrifice, le culte de la mort en réalité qui se développe dans la Russie de Vladimir Poutine. Et donc un an après l'assassinat de Navalny en prison, on peut le rappeler, alors que tout le monde se demande que pensent les Russes, c'est le titre d'un nouveau livre d'Elsa Vidal. Ce film montre que tous les Russes ne sont pas alignés avec ce régime, mais il montre aussi le désespoir dans la société russe qui fait qu'on ne se mobilise pas.
Ça fait deux recommandations pour Anne-Laure Bujon. À vous, Sylvie Kaufmann, journaliste au Monde. Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, est disponible en poche chez Gallimard.
Alors moi aussi, c'est en relation avec notre dernier sujet. C'est un livre d'un couple d'intellectuels ukrainiens, Tetiana Ogarkova et Volodymyr Yarmolenko. Ça s'appelle La vie à la lisière. Être ukrainien aujourd'hui, c'est chez Gallimard. Et c'est vraiment le récit. La lisière, c'est en fait la ligne de front de l'Ukraine. Ils sont allés se promener et c'est une réflexion philosophique. C'est pas seulement un reportage, mais c'est une réflexion philosophique sur ce que c'est que la guerre aujourd'hui en Ukraine, comment elle est vécue et là, une relation quasiment charnelle avec le pays. C'est très intéressant et c'est émouvant même.
Bertrand Badi, professeur en relations internationales.
Alors moi, c'est un film documentaire, Soundtrack to a Coup d'État.
Soundtrack to a Coup d'État, non ? Extraordinaire film. Vous parlez anglais, Merci beaucoup, Bertrand Badi. On n'a pas le temps, mais les auditeurs le verront.
Ce que c'est la tragédie de Lumumba et... où on en trouve en même temps Ella Fitzgerald, Nikita Khrouchtchev,
le jazz et la post-colonisation en Afrique, décolonisation en Afrique, c'est très intéressant. Merci à tous les quatre d'être venus et merci à vous de nous avoir suivis comme tous les dimanches sur France Culture pour l'Esprit Public. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, très bel après-midi sur France Culture.